Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, on voyage beaucoup dans Accent d'Europe cet été, on retourne en Irlande du Nord. Tout d'abord, Belfast promeut le tourisme de guerre et sa nature. Quand en Bosnie, des tours opérateurs proposent de partir sur les traces de la guerre des Balkans. On parlera aussi de fouilles pour détecter les armes à l'entrée des écoles finlandaises. Mais tout de suite, l'éducation sexuelle, une idée encore largement taboue en Turquie. Sexualité, éducation sexuelle, sans même parler de contraception ou d'avortement, ces mots sont encore largement tabous en Turquie. L'information à destination des jeunes reste trop rare et pourtant l'âge moyen du premier rapport sexuel se situe sous la majorité légale avant 18 ans. Anand Lauer nous en dit un peu plus sur ce paradoxe apparent et sur quelques initiatives qui tentent de changer la donne.
Batuhan et Berkay ne représentent pas ce qu'on pourrait appeler le lycéen type en Turquie. Ils étudient tous deux dans l'un des meilleurs lycées du pays, parlent plusieurs langues, ont voyagé à l'étranger, habitent à Istanbul. Ils ne repoussent pas le micro au mot « sexualité », cela ne les fait ni rire ni rougir. Ils reconnaissent tout simplement ne pas savoir grand-chose.
J'ai des connaissances, mais j'imagine qu'elles sont très insuffisantes. Quand on parle de sexualité ici, on baisse la voix, par peur d'être mal vu et parce que notre religion dit que la sexualité avant le mariage, qui plus est chez un mineur, c'est un péché.
Au lycée, les deux adolescents n'ont reçu qu'un seul cours abordant la sexualité. Leur professeur de biologie leur a parlé de reproduction, de moyens de contraception et de maladies sexuellement transmissibles. Dans le même cours, intitulé pudiquement « Santé », il a aussi été question d'alcool, de tabac et d'autres dépendances. Les quelques rares études sur les mineurs et la sexualité en Turquie soulignent sans surprise l'importance d'Internet comme moyen privilégié d'accès à l'information. Une information pas toujours fiable sur le net, alors que la sexualité y est omniprésente. Batuhan.
Oui, la technologie permet d'accéder à des informations que nos parents n'avaient pas. Mais Internet nous confronte aussi très jeunes à la sexualité, à n'importe quel moment, même quand on ne le veut pas. Ouvrez n'importe quel site d'information, vous tomberez régulièrement sur des articles du genre « tel mannequin a enlevé le haut », par exemple.
Plus du quart de la population turque a entre 10 et 24 ans. L'âge moyen du premier rapport sexuel s'établit à 17 ans, selon une étude de 2006 réalisée auprès de 1500 jeunes de plus de 16 ans. Paradoxalement, les préservatifs et la pilule contraceptive sont en vente libre dans les pharmacies, mais les adolescents ont bien du mal à se faire entendre dans ce qu'on appelle ici les centres de santé mère-enfant. Judith Henrion, jeune médecin belge, en a fait l'expérience. Venue écrire une thèse sur la sexualité et la vie affective des adolescents turcs, elle a eu beaucoup de mal à trouver des interlocuteurs.
J'ai eu beaucoup de réactions un peu où on me disait « Mais enfin, pourquoi est-ce que tu demandes la sexualité des jeunes, on parle pas de ça, ça n'existe pas, on sait pas. » Je savais pas du tout par où partir au début parce que quand je demandais « Est-ce que vous savez s'il y a des centres d'information ? Est-ce que vous savez si dans les hôpitaux on donne ces informations-là ?» J'avais juste des réponses très vagues et personne ne savait vraiment où aller chercher l'information.
La Fondation de Turquie pour le planning familial est en fait la seule institution à dispenser régulièrement des cours sur la sexualité dans les écoles et les lycées. Elle se déplace dans les établissements à leur demande. Résultat, malgré 10 années d'expérience, la Fondation n'a créé aucun partenariat avec des écoles et lycées publics et n'intervient que dans 25 lycées privés d'Istanbul. À la condition de ne pas enregistrer, RFI a pu assister à l'un de ses cours. Il s'adressait à des élèves de 14 ans et n'avait rien à voir avec un cours de biologie. Plaisir, homosexualité, tabou, normes sociales. Sur ces sujets-là aussi, la formatrice Eylem Karakaya échange avec les élèves.
Une éducation à la sexualité, ce n'est pas de dire « voici le pénis, voici le vagin » et c'est comme ça que ça se passe au lit. Ce n'est pas du tout ce qu'on raconte aux jeunes. On les aide à se percevoir en tant qu'individus, en tant que garçons et filles, à protéger leur santé, à se comporter vis-à-vis de l'autre. Le but premier avec les adolescents, en fait, c'est de les informer pour les protéger des risques, car l'ignorance crée le risque.
Une étude financée par les Nations Unies en 2007 montre qu'un Turc sur quatre, entre 14 et 24 ans, ne pensent pas qu'une grossesse puisse intervenir après un seul rapport sexuel. Encore plus inquiétant, seul un de ces jeunes sur 10 est correctement informé sur le VIH et le sida. Hélène Caracaya est confrontée dans chaque lycée à des jeunes qui considèrent que le viol ou le harcèlement n'existent pas au sein du couple. Et Istanbul, souligne-t-elle, n'est que la face immergée du problème. En Anatolie, en dehors des grandes villes, l'accès à l'information, fiable, gratuite, sans tabou, est quasiment inexistant. Et pourtant, selon elle, ce n'est pas par manque de demande.
Personne dans la société ne refuse par principe de parler de sexualité ni ne considère que c'est sale. C'est un cliché de dire ça. L'important, c'est de créer pour tous les âges des canaux de discussion. Et créer ces canaux, c'est un sujet très politique.
Batuhan, le jeune lycéen d'Istanbul, ne dit pas autre chose.
Je ne pense pas que ma génération vivra une sexualité débarrassée de tous les tabous. Mais j'espère qu'en développant l'éducation, on fera en sorte que nos enfants et nos petits-enfants vivent dans une Turquie, dans un monde où chacun peut parler de sexualité de manière plus ouverte et plus libre.
Ce n'est pas forcément la première destination touristique à laquelle on pense en Europe, l'Irlande du Nord, terre de conflits pendant plus de 30 ans entre catholiques et protestants, conflit qui a causé la mort de 3500 personnes. Aujourd'hui, l'Ulster souhaite définitivement tourner la page de la violence et attirer les touristes. 4 millions de visiteurs sont venus séjourner l'an dernier. Un musée sur le Titanic, les décors de la célèbre série Game of Thrones font partie des nouvelles attractions d'une région qui table toujours sur le tourisme de guerre, celui de la guerre civile, pour intéresser les étrangers de passage. C'est le reportage à Belfast de Maud Gatineau.
Vous voyez, les gens viennent du monde entier et ils laissent leur message sur ce mur là-bas.
C'est une des attractions phares de Belfast, les taxis noirs. Billy Scott est l'un de ces nombreux guides touristiques qui s'est improvisé chauffeur. Chaque jour, il emmène les visiteurs aux quatre coins de la ville pour témoigner de 30 ans de guerre civile.
Jusqu'en 1998, il n'y avait pas beaucoup de touristes à Belfast. Mais depuis les accords de paix, les gens commencent à venir. En taxi, nous allons des deux côtés de Belfast, du côté des protestants, unionistes et des catholiques républicains. Les touristes sont curieux, ils veulent en savoir plus sur l'origine du conflit.
Pourtant, depuis l'année dernière, c'est loin du conflit dans le quartier naval au nord-est de Belfast que se rendent les touristes. C'est ici qu'il y a 100 ans, le paquebot du Titanic avait été construit, et depuis un peu plus d'un an, c'est ici que se tient le Titanic Belfast, un monument à 6 étages qui propose aux visiteurs de revivre l'histoire du Titanic à travers images, sons et lumières. Here's a cargo crane. Hard to get the scale. The base would be about 10 feet high. Inauguré en mars 2012, ce monument a déjà accueilli près d'1,5 million de visiteurs et est devenu le site le plus fréquenté de Belfast. Pour le tourisme, il s'agit d'un nouveau souffle, comme l'explique Emma Lewis, responsable des ventes.
Nous avons accueilli des visiteurs de 148 pays différents, ce qui montre à quel point l'appel du Titanic touche le monde entier. C'est une marque internationale. Les gens connaissent le Titanic avant de connaître Belfast. Ce musée, ça leur donne une raison de venir chez nous. Belfast est reconnu grâce au Titanic. C'est un tournant décisif pour la ville.
Belfast est en plein changement. Les quelques Français rencontrés sur place en témoignent. La page du conflit nord-irlandais se tourne peu à peu.
Ce passé est un petit peu révolu et concrètement toujours présent, c'est sûr, mais c'est une ville qui renaît un peu de ses cendres et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant d'être ici.
On a pu visiter un peu Belfast, toute la cité historique, le centre-ville et l'ambiance est très, très agréable en Belfast et plutôt justement ouvert aux touristes.
Et loin de Belfast, les campagnes nord-irlandaises connaissent-elles aussi leur tournant, et ce grâce à une série télévisée devenue très célèbre, Game of Thrones. Tournée en partie au cœur des paysages d'Irlande du Nord, cette série fantastique réunit plus de 14 millions de téléspectateurs à chaque épisode et rien qu'aux États-Unis. Pour mêler le fantastique à la réalité, certains fans n'hésitent pas à faire le chemin jusqu'en Irlande. C'est le cas de Morgan, un étudiant français originaire des Deux-Sèvres. Il admet être venu principalement pour voir les lieux de tournage de sa série culte.
J'aurais aimé venir de toute façon, mais d'un autre côté, j'aimerais aller partout.
En vrai, s'il n'y avait pas eu Game of Thrones, je serais peut-être pas venu. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serais pas venu ce week-end. Je serais pas venu aussi vite.
Game of Thrones aurait déjà rapporté plus de 75 millions d'euros à l'économie nord-irlandaise. Et l'appel des fans est si grand que certaines compagnies de transport local ont commencé à organiser des voyages en bus pour les touristes avec un itinéraire retraçant les lieux de tournage. Originaire de Belfast, Michael Cleland est l'un de ses nouveaux guides mention Game of Thrones.
On a en moyenne 10, 15, voire 20 passagers par jour, 7 jours sur 7, un vrai succès. Je pense que l'année prochaine, nous en aurons encore plus, puisque nous allons faire plus de publicité, notamment sur les réseaux sociaux comme Facebook.
Peu auraient parié dessus, pourtant le tourisme est en pleine expansion en Irlande du Nord. Partout, le pays a investi pour accueillir ses nouveaux visiteurs, et en particulier dans la capitale, comme le décrit Fiona Yure de l'un des offices de tourisme de Belfast.
Il y a 15 ans, il n'y avait que 20 hôtels à Belfast et 1000 chambres. Aujourd'hui, nous avons plus de 30 hôtels et 3600 chambres. Nous accueillons des conférences et nous avons plus de restaurants, plus de loisirs. Je crois que le tourisme devient un aspect important de l'économie locale.
Aujourd'hui, l'Irlande du Nord reçoit environ 4 millions de visiteurs chaque année, alors qu'elle compte moins de 2 millions d'habitants. Le tourisme y représente aujourd'hui 40 000 emplois.
Autre pays, autre guerre et autre tourisme, aurait-on envie d'ajouter. La Bosnie et plus particulièrement Sarajevo ont su capitaliser sur la mémoire de la guerre des Balkans. 20 ans plus tard, de nombreuses agences de voyage proposent des circuits pour comprendre le conflit qui a ensanglanté la région de 1992 à 1995. Sur place, on retrouve Sophie Guesnay.
Pour bien comprendre comment le siège de Sarajevo a pu être possible techniquement pendant 3 ans, il n'y a rien de plus efficace que monter sur les hauteurs de la ville. De là-haut, on réalise à quel point la ville est enclavée dans les montagnes, à quel point ses habitants étaient pris au piège des snipers stratégiquement positionnés tout autour. C'est de ces points en hauteur que commencent d'ailleurs de nombreux circuits touristiques, des circuits proposés en ville par des agences aux touristes curieux d'en apprendre davantage sur la guerre de 92-95. Ces tours durent en moyenne entre 1h30 et 3h. Ils incluent bien souvent la remontée de la Sniper Alley, une pause du côté de l'Holiday Inn où étaient stationnés les journalistes étrangers et se termine souvent près de l'aéroport à l'autre bout de la ville. C'est là qu'avait été creusé un étroit tunnel pour relier Sarajevo au reste du monde et par lequel transitaient armes, médicaments et nourriture. Un bout de ce tunnel a été préservé après la guerre, transformé depuis en musée. À côté de ces agences qui se multiplient à Sarajevo, certains vont même encore plus loin. C'est le cas notamment de l'agence britannique Tour Politique, dont les circuits s'adresse surtout, je cite, aux voyageurs passionnés par la politique et par l'actualité. Le tour Bosnie-Serbie propose ainsi 9 jours de visite autour des villes symboliques de la guerre des années 90, mais aussi des rencontres avec des victimes ou des familles de victimes de Srebrenica, ou encore des analystes ou des hommes politiques locaux pour décrypter la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui la Bosnie et la Serbie.
Et l'agence propose aussi des circuits similaires au Kosovo, en Géorgie, en Russie et en Irlande du Nord. L'école finlandaise n'a pas la réputation d'être trop à cheval sur la discipline, mais ça pourrait changer. Les professeurs sont désormais autorisés à fouiller les élèves s'ils les suspectent de transporter des substances illicites ou des armes. Bref, c'est une petite révolution qui se joue dans les écoles d'Helsinki et d'ailleurs. Sur place, Pauline Curté.
Le respect de la vie privée des élèves, c'est une des valeurs prônées par les écoles finlandaises. Aussi, jusqu'à présent, les cartables ou les poches des élèves finlandais pouvaient bien contenir drogues, substances dangereuses ou armes. Il était impossible de le vérifier. Mais depuis début janvier, c'est terminé. Dès qu'un enseignant suspecte l'un de ses élèves de transporter des objets interdits, il peut fouiller toutes ses affaires et confisquer ce qui n'aurait pas dû dépasser les portes de l'école. Dans les cas les plus graves, l'établissement peut même prévenir la police du jamais vu. Bien sûr, les professeurs ont pour consigne de ne pas provoquer des scandales. On leur demande d'agir de manière discrète, de tout faire pour garder leur sang-froid et de protéger l'intimité de leurs élèves. Malgré son esprit sécuritaire, cette loi est peu critiquée par les Finlandais. Au contraire même, elle était réclamée depuis longtemps. Syndicats de parents et de professeurs s'étaient unis pour exiger auprès du gouvernement finlandais une telle réforme. En cause, le recul du respect de la discipline par les élèves dans les écoles du pays. Le phénomène, attesté par plusieurs études, inquiète les adultes. Au point que cette loi n'est que la première d'une longue série. D'autres textes sont en cours de rédaction. Non seulement parents et professeurs veulent travailler ensemble pour établir des punitions efficaces, mais ils aimeraient aussi créer des travaux d'intérêt général au sein de l'école. Et comble du comble, dans un pays où le numérique est intégré à la pédagogie, les parents veulent interdire les smartphones dans les salles de classe. Bref, les jeunes pousses finlandaises n'ont qu'à bien se tenir. Thank you very much for playing this record. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you, thank you very, very much.
Musique.
Et on retrouve Vincent Teval et sa chronique musique.
Bigote, c'est un hurluberlu originaire de Saragosse, un touche-à-tout qui s'exprime en dessin mais aussi en musique, avec 5 disques publiés depuis 2009 qui ont rencontré en Espagne un succès croissant. C'est sans doute ce qui a permis à Bigot de trouver des moyens pour un projet un peu hors norme, puisque l'enregistrement de son 6e album s'est déroulé dans la jungle de Trancoso, au Brésil. Lui, ses musiciens et leurs instruments se sont donc délocalisés pour ce qui a pris des allures d'aventure exotique et pleine de surprises, dont il reste aujourd'hui un disque singulier, ce King of Demo, dont la simplicité revigore.
C'est en musique que se termine Accent d'Europe. À demain.